l'ange du Seigneur annonce à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur, et elle conçut du Saint-Esprit. Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et le Verbe s'est fait chair, et il a demeuré parmi nous. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Que ta grâce, Seigneur, se répande dans nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection. Par le Christ, notre Seigneur. Amen.
Présence à Belmont-sur-Rance, 93.1.
Et c'est avec des températures qui deviennent de plus en plus chaudes que nous débuterons cette émission. N'oubliez pas que si vous êtes âgé, que vous n'avez pas la sensation de soif, et bien il faut quand même s'hydrater, car les chaleurs, eh bien, malheureusement, elles peuvent faire des dégâts. Donc, essayez de rester au maximum au frais. Voilà pour quelques conseils. On est très heureux de vous retrouver pour ce 12-13. Dans quelques instants, nous parlerons d'agriculture grâce à Benoît Guillard, qui nous parlera de structures d'aide qui viennent en aide pour la reprise d'exploitation agricole, et puis les aides qu'ils peuvent avoir et l'accompagnement tout au long donc de cette reprise et dans les premiers mois d'exploitation. Et puis nous partirons dans le Gers grâce à Pauline Cazier, qui va nous faire découvrir un joli festival. C'est un festival d'art urbain qui s'appelle Rural Color. Il fait entrer la création contemporaine au cœur des territoires ruraux. C'est porté
présence
par
présence à Super Bannière 94.
Chers auditeurs de Radio Présence, bonjour. Nous nous retrouvons cette semaine encore pour la chronique verte de Benoît Guillard. Aujourd'hui, j'ai fait le choix de me rendre dans les Baronnies, plus exactement à Bagnos, ou tout près de Bagnos, en tout cas sur la commune de Bagnos. Ça faisait un petit moment que je voulais aller interviewer ce qui se vivait, ce qui se jouait sur la ferme de la Coum. Et puis en même temps, je suis interpellé aussi par les acteurs de l'ADR, je suis sensible. Et donc je voulais un petit peu faire une chronique autour de la situation de l'ADR, vous présenter aussi ce qu'est l'ADR, qu'est-ce qu'ils réalisent sur le territoire, et puis aussi leurs besoins actuels. Donc je suis avec Benjamin qui va peut-être tout simplement se présenter, et puis nous présenter l'ADR 65. Bonjour Benjamin.
Bonjour, donc moi c'est Benjamin Boissy, je suis installé comme paysan sur la ferme de la Coum depuis 2019. J'y suis depuis 2017, mais je suis officiellement installé depuis 2019. Je suis maraîcher sur une ferme donc avec 4 autres personnes. On a un hectare et demi de maraîchage, un petit troupeau de vaches allaitantes et un troupeau de brebis laitières. On transforme tout, que ce soit les produits laitiers ou la viande, ici et avec les outils du département. Je suis paysan et à côté de ça, je suis aussi administrateur de l'Association pour le développement de l'emploi agricole et rural, donc ADEAR, des Hautes-Pyrénées, qui a été créée dans les années 2000 dans le département et qui a comme mission aujourd'hui et depuis toutes ces années d'installer, transmettre, accompagner les transmissions et proposer des formations pour les agriculteurs et les agricultrices du territoire.
Donc son rôle, c'est d'aider les porteurs de projets à mûrir un petit peu leurs projets jusqu'à ce qu'ils soient viables et vivables, c'est ça ?
Ouais, c'est ça. On les accompagne donc à différents niveaux de la. On propose différents types d'accompagnement. Donc, on a par exemple des stages collectifs dans un premier temps pour savoir où est-ce que en sont les personnes. Voilà. Et puis, si le projet est déjà un peu plus mûr, on propose deux types d'accompagnement. Le premier accompagnement qui s'appelle s'installer paysan. Donc là où on commence à rentrer vraiment dans le vif du sujet. Et puis derrière, si on sent que c'est vraiment mûr, il y a un deuxième accompagnement qui s'appelle chiffrer son projet. Et là, on rentre dans l'aspect économique en fait du projet, voir la viabilité du projet. Voilà, c'est ça.
Alors effectivement, on peut dire que dans le contexte actuel, en particulier où le renouvellement des générations agricoles est pas si simple que ça, on le voit dans les éléments statistiques, et ça reste un enjeu majeur. Ces accompagnements sont bien sûr essentiels pour maintenir des fermes à la fois vivantes et puis des productions locales. Bon, vous traversez aujourd'hui une période financière difficile. Peut-être nous dire deux mots sur ce que vous vivez en ce moment.
Alors il y a plusieurs raisons. Donc premièrement, il y a une diminution des subventions publiques. En fait, on est un organisme qui est avec, comme la Chambre d'agriculture, en fait, on est agréé pour faire ce qu'on fait. C'est une mission de service public, si on peut dire ainsi. Et du coup, les subventions diminuent. On fait aussi face à la diminution des aides à la formation, donc avec le fonds Vivea, voilà, qui diminue fortement. Donc ça, c'est quelque chose qui nous impacte énormément. Il y a une diminution de la prise en charge, mais il y a surtout une diminution du nombre de formations. C'est beaucoup plus ciblé, beaucoup plus précis. Il faut toutes les formations ne passent plus aujourd'hui. On a déjà essuyé plusieurs refus, notamment l'année dernière, qui nous ont mis vraiment dans le rouge. On avait prévu 3 formations en fin d'année et elles ont été annulées à peu près du jour au lendemain, si on peut dire. Et ça nous a beaucoup coûté. Et là, on en a encore une aussi qui a été annulée en début d'année.
Alors ces aides Vivea, entre autres et en particulier, qui sont importantes effectivement dans le cadre de l'accompagnement des porteurs de projets. Donc elles sont en forte diminution, pas que pour vous, pour tous les acteurs de l'installation, j'imagine.
En fait, c'est pas vraiment des aides Vivea. Ce qu'il faut savoir, le fonds de Vivea, c'est des cotisations que nous on paye en fait en tant qu'exploitant agricole. Et voilà, c'est ça. C'est de la formation en fait. C'est de la mutualisation pour avoir un fonds de formation pour les paysans et les paysannes pour continuer de se former. Au cours de leur carrière, c'est ça en fait. Là, les formations, elles touchent pas les porteurs et les porteuses de projets. Elles touchent les personnes, en fait, les personnes qui sont déjà installées ou, par exemple, comme en ce moment, à partir de demain, il y a une formation pour la transmission qui commence. Là, clairement, c'est des cédants et des futurs cédants et futures cédantes qui vont participer à cette formation et eux, ils vont utiliser leur fonds Vivea. Mais la transmission est un sujet que Vivea a gardé en priorité. Donc sur celle-là, on sera financé par Vivea. Voilà.
Alors vous m'expliquez, quand on s'est croisé au salon, que comme partout malheureusement, on s'aperçoit qu'il y a quand même un nombre de personnes accompagnées inférieur. En ce moment, il y a une petite baisse de la motivation et des envies d'aller dans le monde de l'agriculture, dans le monde de l'agriculture paysanne, mais aussi dans le monde de l'agriculture en général.
Oui, c'est un constat en tout cas qu'on fait, que la Chambre d'agriculture aussi fait. En tant que structure d'accompagnement, on se pose plein de questions. Est-ce que c'est qu'il y a moins de personnes? Est-ce qu'ils utilisent d'autres biais? Il y a aussi des structures privées qui sont en train de se monter, comme FEV, comme Eloa, qui en fait amènent une concurrence dans ce champ de l'accompagnement à l'installation. Donc aujourd'hui, on peut aussi sur Internet trouver des formations et en 3 semaines devenir maraîcher. Moi, je me permets de passer à la radio pour faire une petite alerte à ce niveau-là. En fait, c'est pas en 3 semaines qu'on apprendra à être maraîcher. Je comprends qu'il y a un sentiment d'urgence de la part des plus jeunes, mais si je peux donner un petit conseil, en fait, ne vous précipitez pas, parce que ça prend du temps en fait pour apprendre ce métier, pour comprendre vraiment. Même moi, au bout de 10 ans, en fait, j'ai vraiment l'impression de comprendre ce que je fais. Du coup, prenez votre temps, ne vous précipitez pas, prenez du temps dans votre parcours à l'installation. Allez dans des structures comme la Chambre d'agriculture, comme la DEAR, qui propose un vrai accompagnement.
Alors tous ces éléments décrits, bien sûr, fragilisent votre modèle économique, mais ils ne remettent pas en cause l'utilité, on l'a vu, hein, de cet accompagnement, et ni la pertinence d'ailleurs dans les actions et dans l'agriculture qu'on développe sur ce territoire, donc ça c'est important. Et donc aujourd'hui, suite à ces situations, vous agissez déjà, vous faites déjà des actions par rapport à tout ça.
Par exemple, ce que j'ai dit il y a quelques secondes, qu'on proposait une formation à la transmission pour les cédants et les cédantes. On accompagne toutes les personnes qui nous contactent pour que ce soit dans un premier stade, même avant l'émergence du projet, Et puis après, derrière, sur les marges, on propose des formations. Il y aura bientôt aussi une formation sur la traction animale Asine, là, qui va se passer autour de Lourdes, à Ségus plus précisément. Donc oui, on est présent. On était présent au Salon de l'Agriculture aussi pour se visibiliser, être en contact avec le monde agricole et paysan. Malgré nos difficultés, on a en fait quand même une grande détermination pour que l'ADR continue d'exister.
Voilà. Alors, au point de cette interview, bon, pour nos auditeurs, simplement, je crois que vous avez déménagé, hein. Vous êtes à Tarbes maintenant, donc peut-être préciser le contact si des jeunes se sentaient investis, ou des moins jeunes d'ailleurs, des gens qui voudraient changer de vie, changer de monde et s'informer. Où est-ce qu'on peut vous voir et comment on peut vous contacter ?
Alors, vous pouvez donc nous voir à Tarbes, à la zone de la Garounère. On a nos bureaux là-bas, je crois que c'est le 9 rue de la Garounère, quelque chose comme ça.
Oui, chers auditeurs, je dois expliquer, je ne l'ai pas fait dans le cadre de cette interview. Je suis à la ferme de la Coume, donc je suis en plein cœur des Baronnies. Et donc, inévitablement, je suis dans la nature et on n'a pas les éléments sous le coude comme ça. Voilà. Parlons un peu des perspectives, du coup, Benjamin. Bon, malgré ces difficultés, quelles sont les perspectives aujourd'hui de l'ADR 65 ?
Alors, les perspectives, elles sont assez claires, donc continue notre mission. Donc là, on va continuer de proposer encore cette année donc les dispositifs d'accompagnement dont j'ai parlé, s'installer paysan, et chiffrer son projet si des porteurs de projets se manifestent. On a donc cette formation sur la transmission qui va commencer demain. Et après, dans nos perspectives, on travaille sur un partenariat avec une fondation qui s'appelle Clamor Terrae, qui travaille sur la biodiversité et qui a envie d'intégrer dans son champ d'action en fait l'agriculture et se rapprocher un peu de structures comme la nôtre. Pour du coup, cette structure pourrait nous soutenir à terme. Donc, ce sera pas en 2026, peut-être en 2027, sur notamment les actions de transmission. Voilà, donc là, ça c'est une des perspectives. Et on va proposer aussi plus de formations cette année. Donc là, comme la formation de traction animale, Asine. On a créé des commissions au sein de la DR avec des adhérents et des adhérentes, paysans la plupart du temps. Donc une commission installation, une commission transmission, une commission formation. Donc au cours de l'année, il y aura d'autres propositions. Et après, dans les perspectives à plus court terme, donc du fait de notre situation un peu complexe, on a décidé de lancer une cagnotte de soutien, de dons en fait participatifs, quoi, pour nous aider à traverser cette phase qui est pour nous, je pense, vraiment une phase. On a besoin d'un soutien. Il sera ponctuel, je l'espère. Voilà.
Oui, en fait, moi, j'ai envie de reprendre un petit peu cet appel, ce soutien qu'on peut vous faire, hein, puisque l'idée, c'est quand même de vous aider à passer ce moment difficile, hein, dans le contexte. Et pour autant, l'utilité et puis le travail que vous menez est très important. Moi, j'entendais la présidente de la région parler de souveraineté alimentaire, mais pour qu'il y ait une souveraineté alimentaire, il faut aussi maintenir les paysans, hein, inévitablement. Et donc, pour ça, il faut les accompagner, les former et les mettre, entre guillemets, dans un contexte viable et vivable pour eux, quoi, dans ces éléments. C'est ce que vous faites. Et puis également, pour maintenir le territoire là, dans les Baronnies, hein, plus qu'ailleurs peut-être, il faut du monde, il faut des mains, il faut des têtes, il faut des gens qui aiment ce pays et qui contribuent totalement à le maintien de ce pays, donc c'est important. Et donc concrètement, comment on peut vous soutenir justement financièrement ? Donc c'est un appel à soutien. Donc si nos auditeurs sont intéressés, qu'est-ce qu'ils doivent faire ? Dites-nous.
Alors on a lancé une cagnotte sur un site qui s'appelle Hello Asso, et il suffit du coup de alors là j'ai pas le lien à vous proposer directement, mais en fait il suffit juste de rechercher ADR des Hautes-Pyrénées Hello Asso et de le taper sur le clavier de l'ordinateur sur internet, et vous trouverez la campagne de dons. C'est assez facile, vous pouvez les dons commencent à partir de 10 euros, et jusqu'à plus, voilà. On est en train d'essayer on va essayer de faire en sorte que, parce que pour l'instant la DR n'est pas reconnue d'intérêt général, donc on peut pas défiscaliser les dons, voilà. Mais on est en train de travailler dessus pour que ce soit le cas.
D'accord. Alors Hello Asso, je précise pour les auditeurs, c'est H E 2 L O ADSO. Et quand vous êtes dans Hello Asso, sur la barre de recherche, vous tapez tout simplement ADR des Hautes-Pyrénées et vous tomberez tout simplement sur la proposition qui vous est faite de participer, de contribuer à passer ce moment difficile. En quelques mots, peut-être pour terminer sur ce sujet, en termes de développement et d'installation de paysans qui s'installent, aujourd'hui, pour avoir une idée, c'est combien de paysans passent par l'ADR chaque année pour s'installer ?
Ça dépend des années. Alors, on ne peut pas dire qu'il y a... On a une centaine de personnes chaque année qui passent parmi nous. Après, il n'y en a pas une centaine qui s'installent. On est plutôt entre 10 et 20, plutôt dans ces eaux-là. Et en fait, ça, on parle de 2024, mais 2025, on n'a pas encore les chiffres. Mais ça n'a pas du tout été à la hauteur de nos espérances. On a typiquement les deux formations qu'on fait, donc s'installer paysan et chiffrer son projet, ont été annulées par manque de... Donc on a fait plus d'accompagnement individuel que d'accompagnement collectif. Voilà. Donc, voilà.
Ce qu'on peut dire peut-être aussi, c'est dans la réflexion que vous portez autour de l'installation, il y a sans doute tout un travail sur le collectif. S'installer seul, et en particulier dans ce territoire et en maraîchage, c'est peut-être difficile aujourd'hui. Même si ce n'est pas l'aspiration générale des candidats, mais travailler ensemble, c'est peut-être mieux. C'est peut-être plus simple en termes de contribution, temps de travail, disponibilité, présence dans la famille, etc. Enfin, vous êtes un exemple, mais...
Je pense que pour ça, je pourrais pas. Moi, je sais que c'est le modèle qui me convient. Je suis sur une ferme où on est plusieurs et ça a plein d'avantages. Ça amène aussi beaucoup de complexité. À la DART, on va pas privilégier les accompagnements individuels. On va privilégier les accompagnements collectifs pour qu'il y ait confrontation, mais voilà, que les gens se confrontent, stimulation, confrontation, qui compare en fait. Ah bah ouais, moi c'est plutôt ça que j'ai envie de faire. Donc c'est parce que c'est vraiment important qu'il y ait du dialogue en fait entre nous et qu'on se sente pas seul dans un projet qui est quand même assez vaste. Souvent même une toute petite. En fait, on se fait peut-être une idée des toutes petites fermes, mais c'est quand même des sacrées entreprises dans lesquelles se lancent les personnes. De vivre son projet d'installation avec d'autres, c'est, je pense, une grande force pour la suite.
En tout cas, merci Benjamin. Moi, j'incite nos auditeurs, en tout cas, à s'intéresser à cette question. Derrière chaque installation agricole réussie, on peut dire qu'il y a souvent un accompagnement collectif. Et si on perd cette capacité à accompagnement collectif, on perdra potentiellement des femmes et des hommes, des agricultrices et des agriculteurs, mais on a besoin de ces femmes et ces hommes, d'autant plus qu'on veut avoir une certaine souveraineté alimentaire dans ce territoire. Merci infiniment, Benjamin. J'espère que cet appel sera relayé en tout état de cause. Et puis, chers auditeurs, je mettrai sur le site Radio Présence Lourdes les références. En tout cas, merci et bonne journée.
Bonne journée, merci beaucoup.
Radio Présence dans la Haute-Ariège, 92.7.
Rural Color est un festival d'art urbain qui fait entrer la création contemporaine au cœur des territoires ruraux, porté par le collectif Mur, association locale de graffeurs. Le festival transforme les murs, bâtiments et espaces publics de l'agglomération du Grand Auch en toiles à ciel ouvert. L'ambition est de réenchanter le quotidien des habitants, de faire dialoguer culture urbaine et ruralité dans un cadre festif, participatif et accessible à tous. Le deuxième festival Rural Color aura lieu les 27 et 28 juin prochains à Pavie. On écoute Virginie Bois, trésorière du collectif Murmure. Elle est au micro de Pauline Cazier.
Oui, bonjour. Alors, le collectif Murmure, c'est une jeune association qui a pour but de promouvoir l'art urbain en milieu rural, qui est basée à Pavie. Donc, l'esprit du festival, c'est vraiment de faire découvrir cet art, qui est un art contemporain, qui est peu connu dans nos territoires ruraux. Donc, c'est apporter l'art sur ces territoires ruraux, le faire découvrir dans un cadre plutôt festif, participatif et accessible à tous, puisque c'est un festival qui est gratuit et qui est assez accessible à tout public, aux jeunes comme aux moins jeunes.
Alors pendant ces deux jours, il va y avoir une transformation des murs avec des graffeurs, c'est ça ?
Oui, alors on a invité au total une vingtaine de graffeurs d'un petit peu partout dans le France et même à l'international, puisqu'il y a un graffeur qui vient de Séville en Espagne qui fait le déplacement exprès en collaboration avec la mairie de Pavie. On va donc peindre les murs de la salle polyvalente qui sont déjà des murs autorisés et on a quand même réussi à avoir l'autorisation pour peindre le derrière de la caserne des pompiers. Donc ce sont des œuvres pérennes et visibles bien après le festival. L'objectif du festival, c'est aussi ça. On se veut un festival itinérant sur mais l'agglomération hein, du Grand Auch, puisqu'on est basé sur Pavie, mais si on est appelé ailleurs, ça peut s'étudier. Cette itinérance a pour objectif de décorer, de faire un petit peu des peintures à ciel ouvert, voilà, des musées à ciel ouvert avec cet art urbain qui est peu connu ici, que l'on voit plutôt dans les grandes villes.
Alors l'objectif, c'est d'impliquer les habitants, les jeunes, les associations locales. Comment ça va se passer avec à Pavie?
Alors effectivement, bon, il faut savoir que c'est notre deuxième édition. Mes premières éditions en tant qu'association vraiment portée, puisque la première édition, on avait collaboré avec la ville d'Auch et avec l'agglomération Grand Auch Cœur de Gascogne. Là, on est vraiment seul sur l'initiative, sur le portage de fonds, sur le sponsoring, sur la recherche d'artistes. Donc, on a en collaboration une animation de skate avec l'association Rider. On s'est associé également avec les libraires de Auch pour qu'ils puissent proposer aux visiteurs un stand avec une orientation plutôt art, artistique, mais aussi sur une thématique, puisque nous avons choisi la thématique du cosmos et du futurisme pour cette deuxième édition. Donc ça sera la thématique imposée aux artistes avec des couleurs bien définies. Donc les libraires ont, donc pour ne citer que les petits papiers et le Migou, hein, viendront avec une sélection de livres dans cette thématique et même un peu plus poussée sur l'art en général, l'art urbain. En termes de collaboration, nous avons été chercher une collaboration avec une marque de fabricant de peinture de bombes. Bon, là, on est parti en Espagne pour le coup, pour faire cette collaboration. Ensuite, on a des sponsorings privés, notamment Unicalo qui nous aide avec le fond. Alors, ce qu'on appelle le fond, hein, c'est la peinture de base qui sera appliquée sur le fond du mur, sur lequel les artistes vont peindre par-dessus. On a aussi le Château Camille qui nous aide. On a la brasserie Augusta. Voilà, on essaie d'impliquer. L'objectif, c'est d'impliquer les acteurs locaux. On est un territoire local. On veut aussi collaborer avec les acteurs qui font vivre le territoire tous les jours.
Alors, vous dites que le sujet, c'est futuriste, mais là, est-ce que les graffeurs auront un thème imposé ou bien c'est eux qui improviseront?
Alors, on leur a juste imposé des couleurs. On leur a fait, il y avait un chromatique de couleurs, hein, un nuancier. Eux ont fait leur sélection, chacun d'entre eux. Ils ont 12 bombes au total. La thématique, c'est le cosmos, donc l'espace et le futurisme. Et après, c'est à eux de créer, c'est leur création de ce jour-là. Donc pour nous, ça sera la découverte comme pour le public.
Alors, on peut dire aussi que le collectif développe un programme d'ateliers pédagogiques qui est destiné au public à partir de 10 ans. Comment ça se passe?
Alors, ça, c'est pas encore mis en place, puisque nous sommes tout jeunes. Néanmoins, ça se passera à Pavie, puisque nous avons les autorisations de la commune, puisqu'il y a des murs d'expression libre sur Pavie. Il y a un complexe, celle polyvalente, qui est tout à fait adapté pour ce genre d'atelier. Donc, on le met à partir de 10 ans, tout simplement, pour des contraintes techniques, à savoir que l'outil, hein, la bombe, c'est, il faut quand même pas mal de pression pour appuyer sur ce qu'on appelle le caps pour que la peinture sorte. Et c'est vrai que pour les enfants un peu plus jeunes, c'est plus compliqué, donc ça peut créer des frustrations. Néanmoins, on est en train de chercher d'autres types d'ateliers pour les plus jeunes. L'objectif, c'est voilà, sur une 2-3 heures. Comprendre quel est ce mouvement, d'où il vient, quelles sont les règles, puisqu'il y a des règles aussi à respecter. C'est pas parce qu'il y a une œuvre de peintre qu'on peut aller dessiner tout et n'importe quoi par la suite par-dessus. C'est un atelier en deux temps, hein, premier temps, présentation du mouvement graffiti, ensuite avec une préparation sur papier pour ensuite le finaliser sur le mur.
Alors, c'est la deuxième édition. L'année dernière, c'était à Auch, dans le quartier du Garoche. Là, cette année, à Pavie. La troisième édition, ça sera dans une autre commune de l'agglo.
Eh bien, on aimerait bien, on appelle les communes de l'agglomération, si elles sont intéressées, à se rapprocher de nous, oui, parce que on aimerait bien mettre un petit peu de couleur partout sur le territoire. Mmh. Donc là, c'est un projet qui n'est encore pas finalisé. On a des idées de thématiques, on a beaucoup d'artistes qui commencent à nous solliciter, puisque c'est un réseau assez pas restreint, le graffiti, mais bon, entre artistes on se parle, et aujourd'hui ils voient que dans le Gers quelque chose est en train de naître et beaucoup ont envie d'y participer. Donc là on fait vraiment un appel aux collectivités, aux communes, pour nous accueillir, pourquoi pas pour la troisième édition. D'ailleurs, nous allons organiser le dimanche à 11h, donc le 28 juin, une invitation, un vernissage avec les institutionnels pour justement présenter notre association, présenter notre projet et pourquoi pas discuter avec certains maires qui souhaiteraient nous accueillir sur leur territoire.
Très bien, alors je rappelle une dernière fois, donc ça sera samedi 27 et dimanche 28, 10h à 19h à Pavie, à la salle polyvalente, mais autour de la salle polyvalente. Voilà. Et écoutez, merci beaucoup Virginie Boy, merci.
Merci à vous.
Voilà, vous l'aurez compris, Rural Color entend devenir un événement de référence dans le Gers. Il se déroulera les 27 et 28 juin prochains à Pavie. Et on a écouté Virginie Bois qui était au micro de Pauline Cazier, notre correspondante dans le Gers.
Présence à Pau, 96.
Et on continue avec l'information et on retrouve pour cela Sacha Baudet-Pouplier de l'Institut supérieur de journalisme de Toulouse qui nous fait l'actualité cette semaine. Bonjour Sacha.
Bonjour à tous, à la une aujourd'hui à Toulouse, la mémoire sera au cœur de cette journée de jeudi. La cérémonie nationale de commémoration de l'appel du 18 juin 1940 se déroulera à 11h au monument à la gloire de la résistance sur les allées Frédéric Mistral. Présidée par le préfet de région Pierre-André Durand, elle réunira notamment des élèves de collège qui liront l'appel du général de Gaulle et interpréteront le chant des partisans ainsi que la Marseillaise. Toujours à Toulouse, plus de 50 décideurs, chercheurs et acteurs de terrain se retrouveront demain matin à l'hôtel Dieu Saint-Jacques pour la première rencontre pour l'action consacrée à la lutte contre la précarité. Au programme, la présentation de l'indicateur ICAP, un nouvel outil qui croise précarité, vieillissement de la population et exposition aux fortes chaleurs afin d'identifier les territoires les plus vulnérables d'Occitanie. Pour rappel, l'Occitanie est une région où 17,5% de la population vit sous le seuil de pauvreté, un chiffre bien supérieur à la moyenne nationale. Direction maintenant les Pyrénées, la filière gasconne des Pyrénées poursuit son objectif d'obtenir une appellation d'origine protégée. Les éleveurs souhaitent mieux valoriser cette viande issue d'une race locale, tout en rappelant qu'une grande partie des consommateurs confond encore viande de bœuf et viande de vache. Cette reconnaissance permet de mieux défendre le savoir-faire des producteurs et de renforcer l'identité de cette filière traditionnelle. « En Aveyron, un nouvel ouvrage rapproche les habitants. Entre l'Aveyron et le Cantal, la commune de La Croix-Barrès a inauguré une passerelle qui permet désormais de relier plus facilement plusieurs quartiers au centre du village. Un aménagement attendu depuis plusieurs années dans la région qui améliore la mobilité des habitants et sécurise leurs déplacements quotidiens. Sur le plan politique maintenant, Gabriel Attal est attendu ce dimanche à Tarbes. L'ancien Premier ministre, désormais candidat assumé à l'élection présidentielle de 2027, participera à un déplacement dans les Hautes-Pyrénées pour rencontrer élus et habitants. Cette visite s'inscrit dans sa tournée nationale. Pour finir en sport, un Lot-et-Garonnais s'apprête à vivre une aventure peu commune. Le joueur de rugby à 7, Joey Kéré-Karaba, va pouvoir parcourir plusieurs milliers de kilomètres afin de disputer un tournoi international en Inde. Une expérience unique pour ce passionné qui représentera le rugby français dans une compétition réunissant des équipes venues du monde entier.
Un grand merci à Sacha Baudet-Pouplier de l'Institut supérieur de journalisme de Toulouse et à tous ces jeunes qui sont avec nous chaque jour pour nous parler et pour nous distiller l'information de notre région. Le retour de l'actualité, vous en avez l'habitude, ce sera 13h avec toute la rédaction française de Radio Vatican. Un métier que vous connaissez peut-être mal dans la littérature, c'est celui de modérateur. Et bien, on découvre ce métier tout de suite avec Philippe Donny.
Présence à Auch 89.6.
Un jour, un livre, un auteur, Philippe Noni, Diego Arabal, Philippe Subercase.
Un jour, un livre, un auteur, les semaines passent et on va être bientôt en vacances, Philippe Noni, Diego Arabal, bonjour.
Tout à fait, bonjour Philippe Subercase, bonjour.
Bonjour, bonjour les deux Philippe.
Même si vous avez déjà la tenue, alors nos auditeurs ne vous voient pas, mais vous avez déjà la tenue de marin, Philippe
oui.
Noni,
ouais.
Donc ça donne effectivement oui. Un air de vacances tout ça.
Ah ouais, là, oui, avec oui. Sa marinière.
La marinière avec les lettres « nous », c'est « nous » comme « noirmoutier ».
D'accord,
très voilà, bien. Ça vient de là d'ailleurs.
On va vous Je crois qu'aujourd'hui, enfin je crois cette semaine, c'est Diego qui a travaillé un peu.
Ah non, pas du tout.
Pas du tout.
Alors, cette fois-ci, c'est vous qui en faites une vieille surcasse par rapport à la semaine passée. Non, mais ça me rassure quelque part. Je me dis, je ne suis pas le seul à vieillir. Alors, aujourd'hui, on va parler d'un thème bien précis. Peut-être d'ailleurs que celles et ceux qui nous y écoutent ont déjà participé dans une librairie, à une rencontre littéraire, avec l'auteur d'un roman, d'un polar, d'un essai. Certaines de ces rencontres sont animées par un libraire, mais parfois, dans des grands événements littéraires, ou même d'ailleurs en librairie, c'est une personne extérieure qui anime et régule la discussion. Cette personne porte un nom un peu... singulier, pour ne pas dire inattendu. Dans le milieu, on les appelle des modérateurs ou des modératrices. Un mot qui ne dit pas vraiment ce qu'il est, et nous avons souhaité creuser la réalité de ce métier en invitant justement l'un d'entre eux. Bonjour Brice Torresillas.
Bonjour, très belle introduction, vous avez tout dit.
Merci.
Ben, merci d'avoir été avec nous. On peut arrêter l'émission.
Vous êtes l'auteur du livre Brice Torresillas, Le Modérateur, publié aux éditions Arcane 17. Expliquez-nous un peu votre métier. C'est quoi un modérateur ?
Ben, c'est effectivement, quand je t'ai dit que vous aviez tout dit, je ne plaisantais qu'à moitié, parce qu'en tout cas, vous avez dit l'essentiel, et je vous en remercie. C'est-à-dire que vous avez insisté sur la singularité de ce mot, qui, pour ma part, ne me séduit pas vraiment. Je l'ai mis en couverture, je l'ai mis en titre, avec un petit peu d'ironie, parce qu'il s'agit au contraire d'animer, non pas de modérer. Alors il est arrivé que dans l'exercice de ma fonction, j'ai eu à calmer certains esprits échauffés, mais franchement, c'est dérisoire par rapport au nombre de fois où au contraire...
Il faut animer.
Il faut animer, essayer parfois de réveiller un universitaire assoupi ou tout simplement dialoguer comme on le fera entre nous et comme on est en train de le faire. Et donc pour vous répondre, effectivement, cette activité consiste à recevoir des gens au cours de tables rondes ou au cours simplement d'une rencontre en duo, on va dire, des gens qui présentent leur livre, et un livre ou voire plusieurs, et de mettre en valeur leur travail.
Alors, on précise que vous avez rencontré près de 652 écrivains. Alors, pas des moindres.
Oui, depuis un peu plus, même.
Depuis un peu plus, donc depuis l'écriture du livre. Donc, pas des moindres. Hein. Danny Arnaud à Douglas Kennedy, en passant par Laurent Mauvignier, Nancy Houston, Kamel Daoud, Patrick Chamoiseau, Javier Cercas, Déborah Lévy, Lydia Georges, David Fuenquinos ou encore Marie-Hélène Lafon. Vous avez interviewé de très nombreuses autrices et auteur au cours, effectivement. Hein. Alors, vous avez un livre qui est passionnant là-dessus, parce que vous l'appelez le modérateur, parce qu'on vous appelle modérateur, et puis on voit petit à petit comment, effectivement, vous évoluez. Qu'est-ce qui vous a incité à écrire ce livre, sachant que vous êtes le premier à avoir écrit un livre sur le métier de modérateur, et donc, quelque part, à avoir défriché ce champ-là. Qu'est-ce qui vous a incité, vous, à écrire ce livre et à l'envoyer à une maison d'édition ?
Alors, il y a une partie de la réponse dans votre question, à savoir que je me suis effectivement rendu compte que ce champ d'activité reste complètement inconnu aux yeux du public et il n'y avait aucun ouvrage là-dessus. Mais le déclic réel, il n'a pas obéi à ce genre de comptabilité. Le déclic réel, c'est le désir de partager une passion. Parce que, voilà, je commence à avoir un certain âge, une certaine expérience, effectivement, puisque j'ai interviewé beaucoup d'auteurs. Et donc, je me suis penché sur ce passé-là. Et j'étais conscient que c'est un vrai privilège. C'est-à-dire que j'ai passé, sans même m'en rendre compte d'ailleurs, ma vie à côtoyer des gens fascinants. C'est réellement un honneur, une chance pour moi, un bonheur de dialoguer très 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 souvent avec des gens bien plus intelligents que moi, bien plus doués que moi, et d'être le trait d'union avec le public. J'ai parti du principe que si je trouvais ça passionnant, si les anecdotes que j'ai pu vivre au cours de toutes ces rencontres, les profils que j'ai pu découvrir, si tout ça me passionnait à moi, ben ça pouvait éventuellement passionner d'autres personnes. C'est ce que je souhaite en tout cas.
Alors, je vais lire un passage, et je vais en lire plusieurs, d'ailleurs, au fur et à mesure de cette interview. En page 17 de votre ouvrage, qui est passionnant, parce que dans la quatrième de couve, on parle bien de modérateur, de cet étrange terme pour désigner ce passeur discret entre écrivain et public, et vous avez cette réflexion en page 17 que j'ai trouvée passionnante. Brigitte Giraud, Franck Bouisset, Philippe Dian, Sharif Majdalani, Catherine Cusset, Jérôme Ferrari, Irène Frein, Violaine Béraud, Éric Chevillard, Duong Thu Huong, Jonathan Coué, Rachid Boudjerera, Laurent Mauvignier, Laurent Petit-Mangin, David Fuenquinos, Édouard Louis, Natacha Apana, Monica Sabulo. De leur côté, je ne suis pas dupe. Les trois quarts de ces gens-là m'ont oublié. Peut-être ont-ils apprécié le moment que nous avons passé ensemble. Peut-être certains d'entre eux ont-ils trouvé ma manière d'aborder leur travail particulièrement pertinente. Mais enfin, si l'entretien ne s'est pas prolongé par un apéritif ou un dîner, ce qui demeure plutôt rare, nous n'avons partagé qu'une heure, 1h30 tout au plus, et leurs regards étaient souvent dirigés vers le public. Et puis les tournées des librairies sont longues. Demain, au fil des mots, après-demain, délivrez-vous, sans parler des salons, des festivals, des médiathèques. Comment voulez-vous qu'ils se souviennent de la tête du modérateur ? Vous avez cette réflexion, page 17. Vous n'avez pas eu l'impression, à un moment donné, et on va voir au fur et à mesure dans la réflexion que vous avez, d'avoir vécu cette situation et de n'être quelque part, non pas un passeur, mais un faire-valoir ?
Ah, j'avais jamais pensé à ça, faire valoir. Mais écoutez, je sais que faire valoir, c'est un terme plutôt péjoratif, mais alors je l'assume totalement, en fait. Il ne m'était pas venu à l'esprit, mais ça me va très bien. Pas du tout par fausse modestie, mais parce que je suis je n'oublie vraiment pas que mon rôle, c'est de mettre d'autres personnes en avant. Et ça me va très bien. Moi, vous savez, je parlais tout à l'heure de mon grand âge, enfin de mon âge.
Vous ne dépassez pas Diego Arrabal, hein, vous savez, qui est un contemporain de Napoléon III, qui est plus jeune que non. lui d'ailleurs. Hein.
Non. Moi, j'ai la soixantaine. Mais donc, ce que je veux dire, c'est que j'ai connu l'époque où, dans les émissions de variété, par exemple, les vedettes, c'était vraiment les vedettes. Et puis ensuite, j'ai découvert une époque où c'était les animateurs qui devenaient les vedettes. Et on les connaissait plus, ou on les connaît plus presque que les artistes qui sont censés présenter. Moi, je suis pas dans cette mouvance-là. Faire valoir, au vrai sens du terme, la qualité d'un auteur, la richesse de sa personnalité, parfois ça me va très bien. Mission accomplie.
Mission accomplie. Et alors, ce qui est intéressant, j'ai lu donc ce premier passage en page 17, et je suis arrivé, en lisant votre livre, à la page 57. Et quand je l'ai eu terminé, je vais lire une réflexion que vous faites. Et ce qui est curieux, cette réflexion arrive pile poil à la moitié de votre livre, un peu comme une balance. Elle s'équilibre. Et là, je pense que le point d'équilibre que l'on trouve à la page 57, c'est exactement ce que vous pensez du rôle que vous tenez. Et je vais lire ce passage parce qu'on voit l'évolution de la réflexion que vous voulez faire passer à la lectrice et au lecteur. C'était bien. Nous avions trouvé le bon tempo, la bonne musique. La réussite d'une rencontre littéraire ne dépend pas seulement des mots et des idées, mais d'une partition invisible et sans cesse improvisée. J'en suis persuadé. Des spectateurs qui ne comprennent rien à notre langue pourraient y trouver leur compte. Il faut que la conversation coule sans être monotone, séduisant et surprenant l'oreille, mariant le cérébral et le sensuel. Bien des auteurs affirment même la même chose à propos de l'écriture. Parfois, quand je dirige une table ronde, le jeu des voix m'emporte. Celle-ci grave et ronde comme le violoncelle de Rostropovitch, celle-là brillante et pointue, un piccolo. Je distribue la parole en battant la mesure dans ma tête. Pas de modérateur qui tienne, ni même d'animateur, et encore moins de médiateur, ce titre qu'on m'inflige de temps à autre comme si une guerre venait d'éclater. L'espace d'un moment, les paupières closes, je me prends pour un chef d'orchestre. Et là, on a l'impression que, à la moitié de votre livre, c'est-à-dire au point d'équilibre de votre livre, comme à peu près 114 pages, un peu comme sur une balance, vous dites, voilà, j'ai trouvé le point d'équilibre. Chef d'orchestre, c'est cela à quoi vous aspirez réellement chaque fois que vous animez une rencontre littéraire ?
Oui, ça me va bien aussi. Alors, je voudrais surtout pas insister sur l'humilité et ne pas la feindre, parce que ça nécessite quand même certaines qualités d'être modérateur et donc chef d'orchestre. Mais ce qui me va bien dans ce côté-là, c'est deux choses. D'une part, le chef d'orchestre a dos au public. Vous voyez ?
Oui, tout à fait.
Et donc ça me va bien. Et je me suis rendu compte, et encore ces derniers temps, là, j'ai interviewé dans le cadre de la Comédie du Livre à Montpellier des gens, et je me rendais compte que, au fur et à mesure des années, je tourne de plus en plus ma chaise vers les écrivains. Alors peut-être que le public, il va falloir que je fasse gaffe parce que c'est peut-être impoli de leur montrer mon dos. Mais ça me va très bien. Et d'autre part, ce qu'il y a dans ce que vous avez si bien lu, sans flagornerie, c'est le sens du rythme. Et quand on est modérateur, comme bien évidemment quand on est chef d'orchestre, le sens du rythme est vraiment fondamental. Fondamental dans parce qu'il ne faut que ennuyer personne une relance par une question une brève interruption ou parfois un long développement bref on joue beaucoup avec la musique et comme dans l'écriture d'ailleurs.
Je vais lire en page 79 un petit passage pour parcourir au fur et à mesure, effectivement. Alors, votre récit que moi j'ai trouvé passionnant parce que, il portait un regard sur un angle mort qu'on n'a jamais vu. C'est-à-dire, moi j'ai assisté à des rencontres littéraires avec comme vous le dites dans le titre de votre livre, même si vous y reconnaissez pas, un modérateur et plutôt, on va dire, un chef d'orchestre. Et je trouvais que c'était intéressant de mettre les projecteurs un peu sur cet angle mort qui n'avait jamais été fait. En page 79, vous citez cette phrase de Michel Houellebecq. La réponse dépend beaucoup de celui qui pose la question. Donc je vais vous poser une question, moi, Diego Arrabal. Pourquoi avez-vous sélectionné ce livre aux éditions Arcane 17, sachant que la réponse dépend beaucoup de celui qui pose la question, on est d'accord?
Tout à fait. Je dois dire à ma grande honte que ce n'est pas moi qui l'ai sélectionné, c'est notre directrice qui a sélectionné cet ouvrage. Faut dire qu'avec Brice, c'est son deuxième ouvrage chez nous, même si c'est pas le deuxième livre qu'il écrit, il en a écrit d'autres. Mais avec Brice, il nous avait proposé il y a maintenant 3 ans, je crois. Vous me corrigerez, Brice, si jamais je dis des bêtises par rapport à ça. Il y a 3 ans, il nous avait confié un premier livre que nous avions édité chez nous, qui est un livre sur la musique. Donc vous allez me rappeler le titre, parce que là, tout d'un coup, j'ai un grand trou dû à mon grand âge.
C'est la faute de votre camarade là qui vous pose des colles.
J'ai bien dit que la réponse dépend beaucoup de celui qui pose la question. C'est vous qui l'avez cité, Brice Toretia. Je ne fais que vous citer, vous remarquerez.
pour partir à la rescousse de Diego, si vous me le permettez.
Allez-y.
En fait, mon histoire avec Arcane a commencé par une nouvelle sur Brassens pour un recueil dédié à Brassens qui s'appelait Mauvaise réputation. Si je me souviens bien, oui. Voilà. Et puis, il se trouve que j'avais un manuscrit et que je reprenais sans cesse, qui s'intitule Comme une chanson.
Voilà,
et,
merci.
Et quand on a fait appel à moi, quand Arcane 17 a fait appel à moi pour Brassens, je me suis dit, tiens, ces gens-là aiment la chanson, chouette, moi aussi. Et j'ai peaufiné ce manuscrit que j'avais, je l'ai repris, etc. Et je suis entré dans la famille d'Arcane avec ça. Mais et pour répondre, pour le choix, si je peux répondre moi-même, du modérateur de la part de Marie-Pierre Vieux, qui est effectivement la directrice d'Arcane 17. Marie-Pierre, et je pense que Diego ne me démentira pas, est une passionnée de littérature française. Oui. On a notamment en commun l'amour de Patrick Modiano, que je n'ai jamais interviewé d'ailleurs, et dont je parle dans le livre, parce que c'était quelqu'un qui... j'en parle à l'imparfait, on le voit moins dans les... dans les médias, mais on se souvient tous à apostrophe ou Bouillon de culture face à Bernard Pivot, combien il était maladroit verbalement, mais que c'était charmant de l'écouter trébucher sur ses mots. Et donc voilà, Marie-Pierre aime Modiano, aime la littérature, et ben ça a fait une passerelle entre nous deux, et puis par-delà nous deux, avec la maison d'édition.
Vous avez un passage aussi qui est étonnant en page 89 que vous évoquez, parce qu'au fur et à mesure que je le disais, je me disais quand l'écrivain ou l'écrivaine que Brice Toretillas a interviewé s'en va, c'est qu'est-ce que l'écrivain ou l'écrivaine lui laisse, c'est-à-dire généralement un livre avec une dédicace. Et vous avez un passage qui est très évocateur par rapport à ça, et qui montre bien par moments, alors vous citez pas les auteurs, et on n'est pas là pour les citer, mais les réflexions que vous pouvez avoir en fonction des personnes que vous rencontrez. Je vais lire ce passage. À Brice, pour Brice. En général, j'attends d'avoir quitté l'écrivain pour déchiffrer sa dédicace, par pudeur ou simplement pour retarder le plaisir. Un plaisir plus ou moins grand, et parfois pas de plaisir du tout quand il s'est contenté d'une formule que je devine reproduite à la chaîne dans les exemplaires des autres lecteurs. Certains poussent la paresse jusqu'à se contenter d'un « bonne lecture » ou d'un « amitié ». J'ai même eu droit un jour à une simple signature. Par chance, la plupart se donnent la peine de m'adresser un message lié au moment que nous venons de partager. J'éprouve une vraie joie à le lire plusieurs fois avant de ranger le livre dans ma bibliothèque.
Bon courage à ceux qui trieront cette dernière après ma mort. Je leur laisse le soin de repérer dans cette jungle de papier les ouvrages dédicacés et d'évaluer s'ils souhaitent les vendre le prix de chacun. Même si je n'y crois guère, j'aimerais posséder quelques notions de graphologie pour comparer le caractère que j'ai discerné durant l'entretien avec celui trahi par la forme des lettres. Les premiers indices concernent la manière dont les auteurs abordent l'exercice. Celui-ci n'a même pas de stylo. J'en ai prêté des dizaines et récupéré un peu moins. Celui-là sort de sa gaine de cuir un prestigieux du pont Mont-Blanc que l'on devine offert par l'être aimé. Des trousses replètes jaillissent parfois du fond des sacs, ce qui m'a valu plusieurs dessins au crayon de couleur ou tamponné à l'encre. L'empreinte d'un écrivain se trouve là, sur la page de titre. Elle est la preuve que nous n'avons pas eu affaire à un pur esprit et qu'il a existé entre lui et nous au moins pendant quelques secondes. Un lien privilégié. En regardant les lecteurs de Marie-Hélène Lafont patienter dans la file pour échanger trois mots et recueillir un autographe, j'ai songé que les amoureux de la littérature ressemblent bien plus qu'on ne pourrait le croire aux fans des vedettes du showbiz, à ces ados qui échangeraient leurs plus précieux sneakers contre un cheveu de leur chanteur favori. Tiens, sortant de la file dont je parlais, ce sexagénaire, moustache poivre et sel, veste de tweed, lunettes ovales de métal à la pointe du nez, le livre ouvert dans ses mains tavelées, le sourire extatique, les yeux écarquillés aussi entre la coiffure afro de Marie-Hélène Lafont et sa signature contemplée comme une relique, une bidinette. Oui, le gain de place, oui, les économies, oui, l'interactivité, mais où les auteurs peuvent-ils rédiger leurs dédicaces? Je persiste et je signe. Le livre électronique est une fumisterie. J'aime beaucoup ce passage, notamment la chute que vous en avez. Dans votre livre, donc, le modérateur, Brice Torrecillas, qui est publié donc, aux éditions Arcane 17, que je recommande vraiment parce que c'est un régal de le lire. Cette réflexion que vous avez, où vous nous emmenez au fur et à mesure jusqu'au final, avec une très jolie couverture, je précise, par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, avec deux fauteuils qui sont tournés vers le public, et non pas un qui est dodo, comme vous le signaliez tout à l'heure. Donc il va falloir réviser la prochaine, voilà. Effectivement, couverture du livre, effectivement, que vous avez, chez Arcane 17, si jamais un jour il sort, effectivement, donc en livre de poche, hein, pour avoir une seconde jeunesse. Quelle a été... puisque là, vous êtes passé de l'autre côté de la barrière, le retour des personnes qui l'ont lu. Je parle des lecteurs et des lectrices.
Alors, d'abord, ça commence. Et d'autre part, c'est ennuyeux comme question parce que ça va supposer que je me fasse des propres compliments. ou que voilà. Sincèrement, il est très très bien reçu. Les gens... alors, pour tout vous dire, j'étais inquiet dans la mesure où c'est vraiment une ode à la littérature. Donc, je craignais d'ennuyer des gens moins passionnés que moi. Et en fait, je me rends compte, par les retours que j'ai, que la dimension humaine fait que tout le public, en tout cas, semble-t-il, y trouve son compte. Voilà.
Moi, en tout cas, c'est un récit que j'ai trouvé vraiment passionnant. Parce qu'en fait, beaucoup. Vous nous faites passer... derrière la barrière, c'est-à-dire que, en fait, quand on vient voir un écrivain, on ne s'intéresse jamais à celui qui l'interviewe. Et là, d'un seul coup, vous mettez en lumière quelqu'un qui est dans l'ombre, et je trouve que c'est toujours bien d'interviewer les personnes qui sont dans l'ombre. Diego Arbal, vous avez une intervention.
Je voulais juste apporter une précision, c'est que Brice Torrecillas n'a pas commis que le modérateur que nous avons publié aux éditions Arcane 17, il s'est accoquiné avec deux musiciens pour prendre des extraits et en faire un spectacle musical. Et donc, je tenais quand même à le préciser, et que c'est un spectacle auquel j'ai eu le plaisir d'assister il y a quelques semaines, et que c'est un vrai plaisir parce qu'on retrouve un certain nombre des textes qui sont extraits de ce roman, et en même temps il y a cette présence musicale qui en donne une pointe à la fois d'humour et de nostalgie, et je trouve que c'est un très beau spectacle. Donc peut-être ne pas oublier que si vous voyez passer, chères auditrices, chers auditeurs, une petite affichette annonçant ce spectacle, bah, même si vous avez lu le livre, ce qui était mon cas, faire le lien entre les deux et y aller, parce que on redécouvre le livre, puisque moi j'avais lu les épreuves, on redécouvre le livre à cette occasion-là, donc je pense que ça peut être intéressant, donc je tenais quand même à le préciser.
Moi, ce que je vous propose, hein, vous me permettez de faire le lien, Diego Arrabal, avec vous, Bristory Silas, donc par rapport au livre que vous avez écrit également, que vous avez sorti, Charcane 17, comme une chanson, donc en 2022, hein, je le vois, donc il est à la fin, hein, de votre livre, hein, vous avez écrit également La Confession, chez l'édition de Parfaits Inconnus, chez l'édition L'Ombre et le Phare, au Cherche-Midi, Ceux qui s'aiment, aux éditions du Rocher. Ça serait de vous retrouver en septembre, quand on va redémarrer donc la nouvelle saison de Un jour, un livre, un auteur, pour Comme une chanson. Parce que j'ai énormément apprécié ce livre, Le Modérateur, aux éditions Arcane 17, vraiment que je recommande. Parce que je l'ai trouvé passionnant d'avoir effectivement cette lecture sur un aspect effectivement que l'on ne connaît pas du tout, c'est-à-dire ces personnes qui sont amenées à animer des rencontres littéraires. On s'y intéresse pas. Jamais. C'est vrai que je m'étais jamais posé la question, et c'est en lisant le livre que je me suis dit, tiens, mais pourquoi tu t'es jamais intéressé à eux? Et je trouve que votre livre lève un voile, et c'est pas un voile pour dire, voilà, je suis le meilleur, pas du tout. C'est juste dire à un moment donné comment votre réflexion au fur et à mesure a avancé. Bon, on disait tout à l'heure 652 auteurs rencontrés au moment du livre, et plus maintenant, donc vous allez certainement arriver vers les 700, ce qui est pas neutre, avec quand même hein, des personnes comme Annie Ernaux, hein, prix Nobel de littérature, donc c'est pas neutre du tout.
On aime, on ne compte pas.
Exactement, vous me l'avez enlevé de la bouche, Bristory Silas. Donc ça, effectivement, c'est important. Juste avant de nous quitter, dans les semaines à venir, alors on sait que vous étiez il y a 2 semaines donc à la librairie Ombre Blanche, donc à Toulouse.
Le 6 juin,
vous y étiez donc le 6 juin. Qu'est-ce que vous allez avoir comme dédicace pour que les auteurs puissent vous retrouver, et surtout si vous avez un site,
les auditeurs
voilà, et les auditrices qu'ils puissent vous retrouver.
Très franchement, là je vais botter en touche, parce que on arrive à l'été, et l'été c'est ce sont les vacances avant tout, et donc mon programme de la rentrée, je l'ai absolument pas en tête, j'en suis désolé.
Et est-ce que vous avez donc une page internet sur laquelle les lecteurs et lectrices à partir du mois de septembre qui vont lire votre livre pourront?
Alors je suis très féru de trop d'ailleurs de réseaux sociaux, sur Facebook notamment, ou sur Instagram, ou
et on vous trouve sur Bristory Silas, on tape Bristory Silas,
voilà okay. Bristory Silas, et je mets mon actualité, qu'il s'agisse de la mienne propre autour du modérateur, ou qu'il s'agisse d'ailleurs des rencontres d'auteurs et d'autrices.
On se verra hors antenne, on en parlera hors antenne pour qu'on se retrouve, donc pour caler une date pour Comme une chanson, hein, quand vous aurez une disponibilité en septembre ou en octobre. Que voilà, j'ai
un autre univers, un tout autre univers.
Exactement, et que j'ai le temps cet été tranquillement de le découvrir et de pouvoir préparer l'interview.
Je vous en ferai parvenir un service de presse, voilà, mon cher ami.
Voilà, donc on explique, hein, pour les auditeurs et les auditrices, un service de presse, hein, ça peut paraître un mot barbare comme médiateur, hein, c'est en fait un exemplaire qui est envoyé par la maison d'édition,
donc à des journalistes,
à des présentateurs, voilà, pour pouvoir, et donc ce n'est ni la radio ni le présentateur qui achète le livre, voilà, c'est pour décrypter un peu comme modérateur aujourd'hui, service de presse. Le modérateur, Bristory Silas, les éditions Arcane 17, un livre passionnant à lire cet été ou même après l'été, c'est vraiment
un superbe petit récit. Merci beaucoup, Bristo Ricillas.
Je savais qu'il allait vous plaire, Philippe. Hein? Je savais que ce livre allait vous plaire.
Ah oui, oui, et puis je suis quelqu'un de très curieux. Donc, je veux dire, ça fait 13 ans maintenant qu'on anime cette émission littéraire. On a fait près de 400 émissions. Alors, on n'en est pas à 700 comme vous, hein, Bristo Ricillas.
Oui, mais quand même, vous pouvez déjà penser à écrire un livre. Hein.
Oui, alors j'en ai écrit plusieurs déjà. J'ai eu plusieurs prix littéraires, dont un face à Jean d'Ormesson et à Philippe Touveton.
Non, mais je voulais dire sur cette expérience-là.
Ah oui, oh, je sais pas, j'ai pas trop... ou alors on commettra un livre ensemble publié aux éditions Arcane 17, dans ce cas-là, on sollicitera.
Radio Présence à Bagnères-de-Bigorre, 88.9. Radio Vatican,
le journal.
Le journal.
Audience générale, Léon XIV est revenu dans sa catéchèse sur son voyage apostolique en Espagne. Il a invité